Pour nous anéantir sans pitié. Une bande de nantis assujettis des pays entiers. La vérité fait s'arrouter, tout va se décanter. Dieu seul fera les comptes, choisis bien dans quel camp t'es. À quoi nos libertés se limitent? À aller voter, acheter une télé, un grand canapé pour s'y vautrer. Mater les débats futiles, quotidien, les plateaux pleins d'idiots utiles et de savants qui servent à rien. C'est pas la fin de la partie, poteau, ne sois pas triste. Sors de l'apathie, relève la tête comme les apatistes. Recharge les batteries, recharge les accus. L'histoire écrite par les vainqueurs, corrigé par les vaincus. Fais pas ton planqué, il s'attaque à nos acquis. Il nous manque un Gracchus, Babeuf ou un Blanqui. Nos vies, tu parles d'un sacré gâchis. Depuis qu'on s'est marché, on soumet sans broncher à la hiérarchie. Ils ont la main mise, j'ai la main soumise. Que l'empire de la marchandise agonise. Que tout s'effondre dans l'indifférence. On va refaire le monde et on va commencer par la France. Ils ont la main mise, j'ai la main soumise. Que l'empire de la marchandise agonise. Que tout s'effondre dans l'indifférence. On va refaire le monde et on va commencer par la France.
S'accaparer de nouveaux marchés, créer de nouveaux besoins, fomenter de nouvelles guerres, en prétendant faire le bien. La propagande fait rage et nos petits cerveaux épongent tous leurs messages bâtis sur le mensonge. La télé ronge nos méninges, tous amnésiques comme Jason Bourne. Si l'être humain descend du singe, il y retourne. Pulsion négative, valeur à l'envers, névrose collective, HP à ciel ouvert. Je me sentais bien intégré, j'en ai des regrets. S'adapter à cette société malade, c'est être cinglé. Qu'est-ce qu'une démocratie sans peuple et sans citoyen? À part une dictature qui n'a pas besoin d'user du gourdin. Corps social engourdi, mais sûrement pas accourdi. Et pour briser le nœud gordien de la fatalité. Voter est accessoire, je crois pas en qui que ce soit. J'ai préféré prendre la parole que donner ma voix.
Ils ont la main mise, j'ai la main soumise. Que l'empire de la marchandise agonise. Que tout s'effondre dans l'indifférence. On va refaire le monde et on va commencer par la France. Ils ont la main mise, j'ai la main soumise. Que l'empire de la marchandise agonise. Que tout s'effondre dans l'indifférence. On va refaire le monde et on va commencer par la France.
Nous ont passé les révolutionnaires.
Baissera bas les bras, tente le tout pour le tout comme Ali la pointe dans la casbah. Toujours debout, même bombardé par vos soldats. Comme Allende dans le palais d'Amoneta. Réfléchis pas, quand les ennemis s'alignent. Comme les militants du boom pris entre Franco et Staline. J'ai des idéaux qui passent avant moi. Je me fous d'avoir ma part du gâteau, je veux casser le plat. On ira jusqu'au bout, on baissera pas les bras. On tente le tout pour le tout comme Ali la pointe dans la casbah. Toujours debout, même bombardé par vos soldats. Comme Allende dans le palais d'Amoneta. Réfléchis pas, tire. Quand les ennemis s'alignent comme les militants du boum. Pris entre Franco et Staline. J'ai des idéaux qui passent avant moi. Je me fous d'avoir ma part du gâteau, je veux casser le plat.
Salut à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui démarre ce soir, comme tous les 15 jours. Vous venez d'entendre Y refaire le monde, l'excellent Y, qu'on avait accueilli ici il y a quelques temps dans l'émission, dans Jeudi Noir. Et voilà, et on vous parle ce soir d'un livre réédité aux éditions Agon, dans l'excellente collection Contrefeu, livre de Murray Bookchin, qui est un auteur américain, et qui s'appelle « Changer sa vie sans changer le monde ». Ça, c'est le titre. Et le sous-titre est bien trouvé, puisqu'il se décline comme ça, « L'anarchisme contemporain entre émancipation individuelle et révolution sociale ». Donc voilà, alors c'est un bouquin qui date, il y a deux textes, hein, donc un texte de 95 au départ et un texte de 91. 95 pour effectivement la première partie, 91 pour la deuxième, et donc là par contre l'édition, la réédition aux éditions Agone est toute récente, hein, c'est 2019.
C'est ce mois-ci,
voilà.
On est dans l'actu.
On est au cœur de l'actu des rééditions. Hein, voilà. donc Murray...
Non, c'est la première édition française.
Première édition française, oui, sur ce texte-là. Ouais. Alors Murray Bookchin, c'est un auteur que les auditeurs connaissent déjà sans doute. C'est un auteur qui est connu pour ses ouvrages anarchistes, libertaires. Il est né en 1920 ou 1921, quelque chose comme ça. Il est mort en 2006. Donc c'est un auteur important de la tradition anarchiste américaine.
Je me demande s'il peut plus donner dans les années 30, je sais plus, mais peu importe. Ouais,
je crois que c'est ça, hein, 2006 en gros. C'est un auteur qui est connu parce qu'en fait il est revendiqué par beaucoup de mouvements libertaires et pas toujours là où on l'attendrait, hein. C'est quelqu'un notamment qui est à l'origine de ce qu'on appelle le municipalisme libertaire. Donc c'est un théoricien, hein, un théoricien de l'anarchisme, un théoricien de l'anarchie politique. Et c'est aussi un penseur de l'écologie sociale qui a été revendiqué beaucoup par les mouvements de l'écologie politique, notamment dans les années 70 et du début des années 80. Alors depuis, beaucoup de ces mouvements se sont institutionnalisés, mais à l'origine, Murray Bookchin est une des références, hein, théoriques de ces mouvements-là. Donc c'est quelqu'un d'important dans les théories anarchistes de la deuxième moitié du XXe siècle. Hein. Et donc dans ce livre-là, il polémique essentiellement avec, en tout cas pour la première partie du livre, hein, avec l'anarchisme individualiste, qui lui semble être finalement une espèce d'anarchisme light, qui sous des couverts de radicalisme chic et de un peu provocateur en centre-ville où on pourrait pâter le bourgeois, devient parfaitement inoffensif du point de vue politique et collectif. Et donc il polémique beaucoup avec des auteurs. Alors, 95, effectivement, donc ça situe un peu le contexte de ce texte-là. Alors Michel, c'est toi que tu as lu le livre un petit peu de manière précise, donc c'est toi qui vas nous en parler précisément ce soir. Donc sur cet enjeu-là, tu confirmes, hein, c'est avant tout une polémique d'abord interne aux militants ou à ceux qui se réclament de la pensée libertaire ou anarchiste.
Déjà. Mais avant tout ça, bon, tu as fait une intro très longue comme d'habitude, hein, on te connaît. Ouais. Mais je voulais préciser
pour être sûr qu'on soit introduit.
Voilà, c'est qu'il y a deux semaines, on faisait une émission et Daniel Johnston était mort.
Ouais.
Et aujourd'hui, on fait une deuxième émission et c'est Jacques Chirac qui est mort.
Ouais.
Alors moi, je dis qu'il n'y a pas de coïncidence.
Oui.
Quand même, hein.
Ouais.
Je pense qu'il y a un lien. Alors lequel, il reste à déterminer.
Oui, ça c'est... Mais en même temps, nous on est...
Ensuite, je dois dire quand même que nous nous félicitons de la mort de Jacques Chirac.
On s'en félicite, on l'a... Enfin voilà, on la souligne, on la signale.
On la signale, et puis c'était le prix l'odeur, c'était tout un tas de choses très sympathiques.
Ouais. On pourrait dire c'était Chirac.
C'était Chirac, voilà. On participera pas à l'éloge du grand homme d'État français.
Ouais.
Mais bon, fallait quand même le dire. Et donc youpi, comme diraient certains de nos auditeurs. Alors oui, donc je confirme effectivement, c'est surtout un débat un peu interne à l'anarchisme, mais qui part, à mon avis, d'un point de vue historique qui me semble assez pertinent, parce que je le défendais il y a 10 ans, donc j'ai un certain biais là-dessus. C'est que Bookchin quand même part du fait que, aujourd'hui, l'anarchisme était à un tournant de son histoire, parce que on est dans une époque où il estime que la méfiance populaire à l'égard de l'État revient en force. Alors, ce qu'il ajoute pas, mais ce qu'on pourrait ajouter à la suite de l'émission précédente sur Cillard James, c'est que c'est aussi parce que l'État redevient ce qu'il a la plupart du temps été, c'est-à-dire un capteur de plus-value, uniquement au service d'une minorité. L'État-providence se casse la figure et l'État est de nouveau sur le mode de captation de tous les surplus pour une minorité de favoriser. Bon. Et évidemment, ça encourage aussi une certaine méfiance à l'égard de l'État. Et dans la mesure où le communisme c'est lui-même, lui-même un petit peu dans les choux, on pourrait penser que l'anarchisme aurait peut-être une opportunité, un truc à jouer. Puisque finalement ces deux grands ennemis sont affaiblis, entre guillemets, dans la culture en tout cas populaire. D'un côté l'étatisme, de l'autre côté le communisme, on lui plante dans l'aile. Il dit, mais pour Bookchin, ce mécontentement à l'égard de l'État, qui s'accompagne d'un appauvrissement continu, d'une exploitation des classes populaires qui n'avaient pas été vues depuis très longtemps, etc., etc. Il dit, mais en même temps, les anarchistes n'ont rien proposé. Ils n'ont rien proposé, et c'est pour ça, alors là, peut-être qu'il surestime la puissance idéologique de l'anarchisme, je ne sais pas. Je pense que ce mécontentement s'est trouvé capté, là je le cite, par des hommes politiques réactionnaires qui l'ont détourné contre les minorités ethniques et les immigrants, ainsi que contre les pauvres et les marginaux, tels que les mères seules, les sans-abri, les personnes âgées, et même les écologistes, qui se voient chargés de tous les maux sociaux contemporains. Et lui, il pense que si les anarchistes ont échoué à toucher une masse de partisans potentiellement énorme, cela ne tient pas seulement au sentiment d'impuissance qui s'est emparé de millions de gens aujourd'hui, il pense que c'est aussi en grande partie, je le cite, le résultat de changements qui se sont produits chez bien des anarchistes eux-mêmes ces deux dernières décennies.
Donc il écrit ça en 95, donc ça veut dire ce qu'il vise, ça serait d'après lui une espèce de tournant dans les mouvements anar ou dans les mouvements libertaires au sens large.
Dans les années 90.
Dans les années 90, mais s'il met deux décennies, ça veut dire que ça démarre dans les années 70.
Oui. Le gars qui l'a traduit, l'ouvrage et qui fait une postface assez intéressante, qui s'appelle Xavier Crépin, je ne sais pas qui c'est, dit que c'est en grande partie une autocritique, finalement, de ce que Bookchin a pu croire dans les années 60. Quand il pensait que globalement la révolution se ferait à travers
le
mode de vie et que un des trucs que Bookchin a tendance à planquer dans son bouquin, c'est que c'est surtout lui-même qui critique. Alors je ne sais pas si c'est vrai, je ne connais pas assez l'œuvre de Bookchin pour en confirmer ou infirmer cette opinion, mais ce serait effectivement, ça pourrait coller avec les engagements de Bookchin dans les années 60. Et donc, une des idées de Bookchin là-dessus, c'est que globalement, justement, les anarchistes ont perdu une opportunité historique parce qu'ils n'ont pas su s'engager sur le terrain social et politique. Et ils sont restés justement à un anarchisme lié au mode de vie. Alors là, on pourra reparler de la traduction de ça parce que c'est dans le texte anglais américain de Bookchin, c'est le Lifestyle Anarchism. Ce qui est dur à traduire en français, un anarchisme lié au mode de vie. Bon. Plus qu'un style de vie, parce que style de vie, bon, malgré tout, style de vie, c'est pas complètement faux. Enfin bon. Et donc là-dessus, il y a une. Pour lui, le grand défaut de l'anarchisme du XXe siècle et du XXIe siècle, sans doute, parce qu'il s'est détaché après l'anarchisme, il s'est revendiqué du communalisme, c'est l'absence d'engagement dans les syndicats. Dans les luttes sociales et dans l'organisation des luttes sociales. Et une de ses idées directrices, c'est que justement les anarchistes se sont contentés globalement de porter des vêtements noirs, d'avoir des cheveux bizarres, de revendiquer un style de vie à eux, en délaissant complètement le terrain de la lutte politique, dans les grèves, les manifs, les trucs comme ça.
Alors après, c'est un débat qui n'invente pas. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il me semble qu'il y a deux choses, moi, dans cette approche-là. Parce que tu as un débat qui est historique au sein de l'anarchisme.
Oui, bah c'est ce qui commence par là.
Qu'un débat historique entre la tradition anarchiste individualiste, hein, qui a ses lettres de noblesse et qui est ancienne, qui est même originaire, je dirais. Et puis ensuite, d'autres branches de l'anarchisme politique, notamment l'anarcho-syndicalisme, pour aller vite, effectivement, ces débats-là, ils sont vifs dès la fin du 19e. Hein. C'est pas nouveau. Donc, tu as cette première couche de débats-là.
Oui.
Et je dirais, alors après,
il commence par là dans son bouquin.
Voilà. Après. Et donc ça, effectivement, c'est des débats anciens, mais qui ont leur intérêt, parce qu'en fait, il faut pas caricaturer les positions des uns et des autres. Mmh. Et la deuxième couche, c'est effectivement ce qu'il dit. Moi, il me semble qui est intéressant, c'est la manière dont ce débat a pu se reformuler à partir des années 70, pour aller vite, je dirais un anarchisme post 68ard qui a eu tendance, effectivement, peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'il faut être prudent là-dessus, à déplacer effectivement les luttes ou l'engagement anarchiste du côté des modes de vie, du côté des valeurs, sur un mode du voilà, la révolution, il faut d'abord commencer par la faire en soi-même, ou dans la manière dont on vit vis-à-vis de ses proches, et une espèce de méfiance aussi vis-à-vis de toute forme d'organisation collective, donc qui a pu réactiver effectivement des débats ou des positions anarchistes individualistes anciennes, mais dans un contexte qui est très différent, qui est celui effectivement de la montée pareil des sociétés néolibérales, du néolibéralisme politique aussi. Et du coup, effectivement, cette deuxième couche, là, je dirais post-68arde, en même temps, c'est pas non plus nouveau comme critique, hein, parce qu'on la trouve à droite comme à gauche, d'ailleurs, hein, cette critique-là. Critique de l'anarchiste un peu bobo, ou du radical chic, qui finalement, effectivement, est coupé de toute forme d'engagement politique concrète, ou de toute forme d'engagement collectif. Et donc, peut-être, effectivement, que l'intérêt de sa critique, c'est de faire le lien entre les deux, de montrer comment, effectivement, ce débat-là, dans le contexte qui est celui des années 80-90.
Il le réactive. En fait, il le réactive.
Réactive un débat ancien, mais du coup, effectivement.
Avec de nouveaux termes et avec de nouvelles positions théoriques aussi. C'est-à-dire qu'il va commencer par justement dire depuis deux siècles, tu vois, là, ça rebondit sur ce que tu disais, l'anarchisme s'est développé à la jonction de deux grandes tendances contradictoires. Et peut-être que là où il va un peu plus loin que certaines personnes, c'est qu'il pense que c'est un engagement donc personnaliste en faveur de l'autonomie individuelle. Donc en anglais, ça c'est « liberty », et un engagement collectiviste en faveur de la liberté sociale. Là, c'est « freedom ». En français, on a les deux mêmes mots, en anglais, ils ont deux mots différents. Et pour lui, ces deux tendances ne sont jamais parvenues à se réconcilier, en fait. Là-dessus, ça c'est un point de vue que j'avais peut-être pas forcément lu jusqu'ici, l'idée que la synthèse, en fait, entre ces deux tendances de l'anarchisme était impossible. Il a tendance, et lui, il va développer l'idée que, justement, l'autonomie individuelle et la liberté que la traduction est donnée comme liberté sociale, sont en fait très très souvent contradictoires, et pas simplement hétérogènes. Donc il y aurait l'idée que le raccord est en partie artificiel, parce qu'il repose essentiellement sur une opposition à l'État. Sur la base de l'ennemi de mon ennemi et mon ami, en quelque sorte. Et sans envisager, dit-il, plus largement la nouvelle société qui doit être créée à sa place. Et son idée, c'est que les anarchistes... Ça manque de programme. Bah, il serait peut-être un peu plateformiste, pour rappeler des très vieux débats des années 30 avec les partisans de Macno et quelques autres. Alors, même s'il ne parle pas forcément d'une plateforme, il n'utilise pas le terme.
Non, après, il est clair que Bakunine, c'est un théoricien.
C'est un théoricien
d'ailleurs assez passionnant, mais c'est quelqu'un qui imagine effectivement la société future et qui cherche à préciser de manière assez détaillée la société effectivement qu'il appelle de ses voeux. Alors effectivement avec des unités politiques de base qui sont des communes, c'est-à-dire des unités urbaines mais de taille limitée, un modèle qui est celui de la fédération, hein, et de la confédération. Au passage, je signale que c'est un modèle qui a été repris et intégralement par le PKK kurde, hein, qui l'a adopté. En fait, c'est au moins ça. Mais c'est pas anodin en fait, hein, et aussi par le parti frère syrien, hein, du PKK. Donc ça peut avoir des traductions. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'idée effectivement d'organiser clairement la société sans État, hein, sur des bases effectivement politiques. Donc c'est très programmé.
Et en plus, il y a aussi une idée politique en termes de transition, c'est-à-dire qu'il est très très clair que lui, il voit le communalisme non pas comme un truc où on renverse l'État d'un coup et on fait la révolution. Il est plutôt c'est pas un réformiste, c'est un révolutionnaire, mais gradualiste. En fait, il est très très proche d'Élisée Reclus là-dessus. C'est-à-dire qu'il pense que la révolution va se faire à coup d'évolution à droite à gauche qui finiront par tout renverser, sans même à la limite qu'on s'en aperçoive, parce que la chose a déjà été renversée. Et son idée, c'est de partir justement construire des unités politiques de base, des communes, qui s'organise et qui finalement vide l'État de sa substance.
Et c'est quelqu'un qui pense effectivement à un programme politique qui est une machine de guerre contre le capitalisme.
Et contre l'État aussi. Et
contre l'État et contre le capitalisme. Donc en ce sens-là, il est effectivement complètement dans la tradition à l'art. Hein.
Ah, complètement.
Et donc c'est un mec super intéressant de ce point de vue-là. Mais c'est pas un mec qui se paye de mots. Enfin, c'est en tout cas un gars qui croit vraiment au programme. Quoi.
Et à l'organisation. Et aux institutions.
Et aux institutions aussi.
Et donc il est totalement opposé à tous ceux qui veulent s'en débarrasser. Ouais. Alors ce qui est intéressant, c'est que, alors ce serait discutable, mais je pense qu'il fait des...
C'est un romantique programmatique, quoi.
Oui.
Voilà. Il est plus programmatique que romantique, quoi.
Et malgré tout, il dit qu'il faut, justement, dans les périodes de basse eau révolutionnaire, il ne faut pas céder aux sirènes du réformisme pour exercer le pouvoir à tout prix.
Ouais, il est intransigeant.
Il est intransigeant, il faut au contraire rester sur ses positions et continuer à prêcher dans le désert. Là-dessus, il le dit très très clairement, il ne faut pas céder sur les principes, il faut juste attendre une période qui soit plus propice à nos principes.
Donc c'est un anarchiste qui pense qu'un autre monde est possible. Voilà. Et qui travaille effectivement à rendre cet autre monde possible.
C'est ça. Et donc il va être assez violent. Alors après, dans l'histoire de l'anarchisme, je trouve qu'il propose des trucs. Il va opposer par exemple.
C'est à peu près ce qui se fait de mieux, moi je trouve, dans cette branche-là.
Dans cette branche-là,
l'anarchisme, pour moi, c'est à peu près ce qui se fait de mieux.
Sérieux, chiant, comme tu disais, en antenne.
Un peu chiant, c'est un peu caricatural de dire ça. Et puis c'est trop rapide.
C'est trop rapide, parce que son bouquin est marrant. Le bouquin, là, Murray Bookchin a changé sa vie sans changer le monde. Le titre est pas terrible, je trouve, là, les éditeurs. Les copains d'Agone, je trouve qu'ils ont un peu... Parce qu'ils présupposent trop vite que le lecteur du titre sera d'accord avec eux pour penser que changer sa vie sans changer le monde, c'est mal. Alors que je pense qu'il y a plein de conservateurs qui seraient enthousiasmés par ce programme. Genre, change ma vie, mais change pas le monde, surtout.
Qui vise, alors, du coup, là-dedans?
Qui vise
Est-ce qu'il a des cibles un peu...
Il a des cibles très précises. Ouais. Alors, il commence par, en quelque sorte, déjà séparer... comment dire, dans l'histoire classique de l'anarchisme et des grands théoriciens d'anarchie, ils commencent déjà par mettre de côté, par exemple, Proudhon et Godwin, dont on avait parlé dans une émission précédente,
il y a
très longtemps, il émet comme des anarchistes individualistes, plutôt, qui sont plutôt d'une espèce d'une liberté négative, à savoir être libre d'eux, plutôt qu'être libre en vue d'eux. Mais ça, pour lui, c'est un des principes de base de l'anarchie. C'est-à-dire qu'on se met d'accord pour se libérer d'une oppression, on ne se met pas forcément d'accord pour les buts que l'on vise. Bon. Mais il va dire que des gens comme justement Proudhon et Godwin sont plus soucieux d'autonomie personnelle. Donc là, c'est le côté autonomie. Et lui, il se situe plutôt du côté de Bakounine et de Kropotkin. Parce qu'il identifie justement ces deux courants antagonistes dans l'anarchisme, le courant autonomie individuelle, le courant liberté sociale, et dans le courant liberté sociale, il va mettre Bakounine et Kropotkin. Alors, tout le monde n'oppose pas forcément Proudhon.
C'est pas forcément évident.
C'est pas forcément évident. Et justement, lui, il va faire son idée. Justement, il va dire que dès Bakounine, dès Kropotkin, il y a une critique assez vive de l'individualisme. Il y a un truc de Bakounine qui est pas mal. Pour former la plus pauvre des individualités libres d'aujourd'hui, il a fallu que fussent conjugués les efforts sociaux d'une foule de générations. Ainsi, l'individu, sa liberté et son intellect sont le produit de la société, et non celle-ci le produit des individus. Et plus hautement, plus intégralement, plus librement l'homme est développé, plus il est le produit de la société, plus il a reçu d'elle et lui est redevable. Donc il commence en quelque sorte par jeter une pierre dans le jardin des anarchistes individualistes en leur citant une grosse autorité anarchiste, à savoir Bakounine. Mais la citation est assez claire. Et ce qu'il va commencer à développer, c'est l'idée que globalement, ces anarchistes-là sont restés très très proches du collectivisme et du socialisme, sont revendiqués du socialisme, et ça c'est vrai dans le cas de Bakounine. Bakounine se dit socialiste, je crois presque plus qu'anarchiste. Enfin, dans les textes que j'avais lu de lui, c'était clairement, pour lui, il était dans l'international socialiste et il était socialiste. Et l'opposition à Marx, elle se faisait sur d'autres trucs, c'était entre les socialistes autoritaires et les socialistes anti-autoritaires. Et donc, il va dire ça, et il va dire quand est-ce que l'anarchisme, individualisme apparaît. Sachant qu'il a été marginalisé d'après lui par tous les mouvements ouvriers socialistes de masse, sur lesquels il n'a aucune influence, son idée c'est que l'individualisme apparaît dans les périodes de réaction. quand globalement, alors c'est une idée qui n'est pas non plus très très originale, le coup c'est une idée qu'on trouve un peu partout, on la trouve même au sujet de certains philosophes, hein. On dit que les stoïciens par exemple se retirent justement des thématiques politiques au moment où l'empire apparaît et au moment où la démocratie disparaît, ce qui fait qu'il y a une espèce de repli individualiste puisque l'action collective semble devenir impossible. Et donc, pour lui, c'est surtout des gens qui sont influencés par les courants libéraux, par John Locke, par John Stuart Mill, et plus tard il dira par Stirner, qui est pas forcément un libéral pour le coup. Et donc, il va dire aucun anarchiste individualiste n'a réellement exercé d'influence sur la classe ouvrière naissante. Pour lui, c'est uniquement dans les périodes de forte répression et d'étouffement des conflits sociaux que les anarchistes individualistes sont parvenus à jouer un rôle de premier plan au sein du mouvement libertaire. Et cela principalement sous la forme du terrorisme. Mmh. Et donc son idée, c'est que, il parle de la fin du 19e siècle, mais il y a une espèce de retour de cette configuration historique dans les années 90. Et son idée, c'est que le climat actuel de réaction sociale permet en grande partie d'expliquer l'émergence au sein de l'anarchisme euro-américain, un phénomène impossible à ignorer, la diffusion de l'anarchisme individualisme.
Là, il parle de 95 ou il parle des années 70-80 ?
90. Hmm. 90, il dit dans les pays traditionnellement individualistes libéraux comme les États-Unis et la Grande-Bretagne, les années 90 voient proliférer les anarchistes autoproclamés qui, si on laisse de côté leur flamboyante rhétorique radicale, ne développent en fait qu'une forme modernisée d'anarchisme individualisme.
Alors il parle de qui là,
que j'appellerais anarchisme existentiel. Alors, c'est comme ça qu'ils ont traduit lifestyle anarchism, anarchisme existentiel. Alors, il parle de qui ? Alors, il vise assez large. Il a des petits morceaux de bravoure, parce que pour lui, alors il le décrit, il faut que je te dise ça quand même. Comment est-ce qu'il décrit cet anarchisme individualisme New Style des années 90 ? Il va dire, c'est sans doute un peu malhonnête, je pense, mais assez réjouissant. Mais j'aime bien les pamphlets, moi. Bon. Il dit un aventurisme intermittent, une bravoure toute personnelle. Une aversion pour la théorie présentant une étrange ressemblance avec l'antirationalisme postmoderne. Une glorification de l'incohérence théorique, le pluralisme. Un engagement sans aucun contenu politique ou organisationnel au service de l'imagination, du désir et de la joie. Et un effort intense en vue de réenchanter sa propre vie quotidienne. Autant de traits qui illustrent l'influence négative que la réaction sociale a exercée sur l'anarchisme euro-américain des deux dernières décennies. Donc les deux dernières décennies, en fait, il parle aussi, effectivement, comme tu disais, il vise ça depuis les années 70.
Si tu veux, moi, est-ce que ce débat-là, je le trouve assez passionnant, assez crucial même, en fait, du point de vue... d'un point de vue libertaire, quoi. Après, si tu veux, ça me paraît un peu... Alors, est-ce qu'il précise ? C'est pour ça que je te pose la question.
Oui.
Parce que, est-ce que c'est précisé ? Parce que tu pourrais presque lire, des critiques anti-68ardes, quand tu dis ça.
Oui, c'est pas très très loin.
Et donc, t'es pas très loin de ça, et ça, je pense que c'est trop rapide.
Oui, alors c'est trop rapide, après, on va peut-être rentrer dans les détails. Ouais. On précise un petit peu les choses, ça fait déjà longtemps qu'on parle, on va profiter...
On peut se faire une pause.
On va arrêter de gonfler nos auditeurs, puis on va en faire écouter de la musique. Et puis après, on reviendra sur les sites précises, parce qu'il y en a.
You carved a space in my chest while I was sleeping. Deep down, I couldn't see the poison you used to try to kill me. I am still haunted by you, but you don't get to control my future. You don't deserve to control my trust, my happiness, my love. I was a warrior when I met you, and a warrior I will remain.
Par Manuel Di Grotesque, chansonnier poète.
Bravo.
Je pense à mon cerveau et ce dernier réfléchit à moi-même. Je chante pour mon ego et en réponse il me susurre qu'il m'aime. J'imagine ma personne
Bonsoir à tous, c'est Jeudi Noir qui continue sur Radio Liberté à 89.4, à la radio de la Fédération Anarchiste. Et vous venez d'entendre deux morceaux. Le premier de Rosé Quartz qui s'appelle Narcissism. Et le second de Manuel Grotesque qui s'appelle Une chanson bien à moi. C'est un brestois. Voilà. Et on parle ce soir d'un livre de Murray Bookchin qui s'appelle changer sa vie sans changer le monde, l'anarchisme contemporain entre émancipation individuelle et révolution sociale. C'est traduit et édité chez nos amis Dagon dans la collection Contrefeu. Ça vient de sortir. Alors le texte lui-même est de 95 et doublé d'un deuxième texte de 91, donc c'est une traduction, mais c'est une première traduction en français. Donc le débat qui intéresse Bookchin dans ce livre, c'est celui qui oppose les anars individualistes qui ont tendance à penser que la révolution c'est d'abord dans sa tête et dans sa vie, et les anars plus collectivistes et d'après lui plus conséquents qui veulent la faire vraiment, la révolution, en s'engageant, en s'organisant et en visant effectivement un autre monde et en faisant advenir une autre forme de société sans État, puisque c'est ça l'objectif. Et du coup, on se posait la question juste avant la pause musicale, là, de savoir finalement quelles étaient les cibles de Bookchin, puisque c'est un texte de 95 et qui est finalement une espèce de bilan très critique d'un tournant qu'aurait pris, d'après lui, en tout cas, beaucoup d'anars dans les années 70 et 80. Tournant individualiste, existentiel, qui aurait eu tendance à déplacer le combat anarchiste plutôt sur le mode de vie, plutôt que sur celui du terrain proprement politique. Alors, qui est-ce qui vise en particulier ?
Qui est-ce qui vise ? Alors, je vais citer quelques noms, on va faire un petit peu de name-dropping, et puis on va essayer de creuser un peu. Bon, on va essayer d'expliquer, parce que le name-dropping, c'est vraiment chiant, là, citer des noms de gens célèbres en disant « Ouais, il est contre le machin, bon, tout ça. » Alors, une de ses cibles, c'est Foucault. Il commence
plutôt
par ça.
Les années 70.
Donc plutôt années 70, voire 60. Ouais. Malgré tout, avec le tournant de Foucault dans les années 80, vers une éthique antique et le souci de soi.
Donc une approche plus individualiste, effectivement, comment organiser sa vie, sa propre vie.
C'est ça, comment avoir une espèce d'esthétique de l'existence. Ouais. Et alors il attaque Foucault en disant que globalement, alors c'est une attaque assez classique, que pour Foucault justement, enfin ce qu'il reproche à Foucault, c'est une critique ambiguë et cosmique, alors ça je l'avais jamais lu, cosmique du pouvoir, qui est substitué, on fait la rapproche de Foucault, il substitue à sa suite donc une critique ambiguë et cosmique du pouvoir à une exigence d'autonomisation des opprimés par la création de leurs propres institutions. Donc ce qu'il reproche à Foucault, c'est d'universaliser le pouvoir, de dire qu'on n'est jamais en dehors du pouvoir, et que finalement on ne pourra jamais lutter contre le pouvoir parce qu'on est toujours déjà dedans. Bon, ça c'est une critique très classique de Foucault. Et pour lui, une des conséquences concrètes, c'est que selon cette conception tortueuse, il parle de Foucault, la résistance doit nécessairement prendre la forme d'une guerre de guérilla perpétuelle, toujours vouée à la défaite. Donc il y a Foucault parmi ses cibles, et c'est effectivement plus les années 70. Alors il y a une petite note assez venimeuse, il dit quel bonheur le jour où on pourra enfin tirer de Foucault quelque chose de clair, tant les formulations qu'on trouve chez lui se prêtent à des interprétations contradictoires. Et lui-même il pense que Foucault est plus une entrave à un mouvement politique organisé, une entrave théorique, qu'une aide. Et donc là, bon, ça fait partie de ses cibles, elle revient à plusieurs reprises. Ensuite, justement, bon, il va s'en prendre à tous les courants irrationalistes qu'on retrouve à gauche à partir des 60-70 aussi, mais qui se perpétuent aujourd'hui, auxquels Foucault pourrait être attaché d'une certaine façon. Et donc après, il va attaquer le primitivisme.
Puisque la raison, c'est le pouvoir, et c'est le pouvoir, c'est l'État. Et donc,
exactement. Voilà. Et donc pour critiquer ça, dans ce truc-là, il va reprendre une opposition que lui va pousser jusqu'au bout entre autonomie et liberté, autonomie individuelle, liberté sociale. Et pour ça, il va prendre un livre que je ne connaissais pas du tout, qui est écrit par une femme qui s'appelle, c'est Suzanne, comment elle s'appelle déjà ? Attends, Suzanne Brown, parce que oui, je confondais avec Wendy Brown, donc, qui est une autre théoricienne. Et justement, lui, je le trouve un peu malhonnête parce que les positions qu'il attaque chez Brown semblent tellement outrées et tellement faciles à attaquer qu'elle fait un petit peu femme de paille. Au sens, il attaque les individualistes peut-être par quelqu'un qui les a mal défendus. C'est à discuter. Je sais pas trop. Mais en tout cas, ce qui est intéressant à travers là, c'est qu'il va montrer que dans la voie de l'anarchisme individualiste, il est très très facile finalement de retrouver des positions qui sont pas très très éloignées de positions comme celle de Thatcher. Brown dit ce n'est pas le groupe qui donne forme à l'individu, mais plutôt les individus qui donnent forme au contenu et contenu au groupe. Donc là, il est en opposition totale à Bakounine, à la citation que je faisais tout à l'heure. Un groupe n'est ni plus ni moins qu'une collection d'individus. Il la cite. Il n'a pas de vie ou de conscience en propre. Donc là, c'est une position assez classique chez les libéraux nominalistes, du type la société n'existe pas. C'est ce que dit justement Bookchin. Si cette incroyable proposition ressemble fort à la fameuse déclaration de Margaret Thatcher selon laquelle il n'existe pas de chose telle qu'une société, seulement des individus, elle révèle aussi une forme de myopie sociale caractérisée par sa façon positiviste, voire naïve, de séparer entièrement l'universel et le concret. Bon, là, c'est un peu philo.
Est-ce que les gens qui visent pas, alors là pour le coup je sais pas, mais je vais faire du name dropping de mon côté. Ouais. Si on est en 95, ce qu'ils visent pas, c'est finalement le mouvement libertarien naissant américain et des gens comme Nozick en fait.
Ah ben Nozick c'est 71, hein. Ouais. C'est même pas naissant.
Donc là mais ça s'installe effectivement dans le paysage. C'est une tradition d'espèce de d'ultra libéralisme, ultra individuel, effectivement ultra anti-État, mais absolument pas révolutionnaire et absolument pas.
Et lui il propose qu'il dit qu'il faut pas les appeler des libertariens mais des propriétaristes.
L'anarchisme
des riches. Ouais. Mais après, il va un peu plus, comment dire, ce qu'il va aussi attaquer, c'est des formes d'organisation et de militantisme. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il a beaucoup participé à des structures politiques où le consensus était, mis en avant. Pour pas brimer l'individu. Mm-hmm. Et lui, ce qui implique aussi une négation des délibérations collectives, d'après lui, fondées sur la raison, le discours et des procédures de démocratie directe. Et là, il cite Brown, qui justement dit que Brown dit, écrit, un pouvoir démocratique est toujours un pouvoir, même s'il permet davantage de participation individuelle au gouvernement que la monarchie ou une dictature totalitaire, il implique toujours par définition la répression de la volonté d'un certain nombre de personnes. Cela va évidemment à l'encontre de l'individu existentiel qui doit défendre l'intégrité de sa volonté pour être existentiellement libre. Et lui, il ajoute, c'est Peter Marshall, oui, c'est ça. La majorité n'a plus le droit de commander à la minorité, même une minorité d'un seul, que la minorité n'a le droit de commander à la majorité. Et là, lui, il s'y oppose, parce qu'il va dire, et ça, c'est sans doute le fruit de son expérience personnelle, ce qu'il écrit ensuite, c'est que le fonctionnement par consensus, il en garantit que les prises de décision importantes seront manipulées par une minorité, quand les deux ne bougeront pas sur rien. Donc là, ils s'opposent, là, en termes organisationnels, c'est assez clair. Ce qui vise à travers l'individualisme, c'est aussi des formes d'organisation qui vont être fondées sur le consensus, parce qu'ils pensent que le consensus aboutit à des dominations informelles. Et ils citent un article assez célèbre d'une féministe américaine, Jo Freeman, qui date de 70, qui s'intitule « La tyrannie de l'absence de structure ». Soit dit en passant, c'est un article que vous pouvez trouver, qui a été dans le journal américain The Jacobin. J'ai cherché, j'ai trouvé. Il est republié, je crois, en PDF. Il est disponible. Et il n'est pas traduit. Ça pourrait être peut-être bien de le traduire s'il n'a jamais été traduit en français. Je ne sais pas s'il y a des anglicistes qui ont envie de faire ça. Où justement, une féministe américaine montre comment des formes d'organisation consensuelles ont abouti en définitive à la prise de possession des décisions par une minorité plus activiste. Plus présente dans les réunions, globalement c'est
ou plus charismatique
et que par conséquent il faut aussi des garants contre ce type.
Donc en fait faut choisir, on peut pas défendre à la fois l'individualisme et le consensus et la démocratie directe.
Voilà,
c'est l'un ou l'autre.
C'est ça.
Si on veut la démocratie directe, il faut défendre le principe du vote.
Oui. Et pour lui, justement, il a fini par évoluer. Il partait d'une position où c'était plutôt consensus, individualisme et changement du mode de vie, à quelque chose où il pense qu'il faut des institutions, une organisation, et qu'il faut renoncer. Si on veut participer à une société libre, il faut renoncer à des formes d'autonomie individuelle. Et il pense, dans son bouquin, il va pousser la contradiction qu'il voit entre les deux courants d'anarchisme, entre le courant individualiste et le courant collectiviste, pour aller vite. Il prend parti clairement pour le courant collectiviste, et il pense que ces deux courants sont en réalité inconciliables.
Et quelqu'un qui a un mauvais esprit, comme moi,
oui,
pourrait dire que tu peux aussi tracer une autre frontière au sein des mouvements libertaires entre ceux qui veulent prendre le pouvoir et l'exercer de manière libertaire et ceux qui veulent avant tout s'opposer au pouvoir de manière libertaire. Et que Murray Bookchin serait plutôt du côté des premiers.
De ceux qui veulent prendre le pouvoir.
Voilà.
Je veux dire qu'il serait plutôt du côté des ministres anarchistes espagnols,
plutôt que de ceux qui s'intéressent à la manière d'être dans les contre-pouvoirs efficacement. Et c'est du mauvais esprit de ma part, sans doute.
Sans aucun doute. Ouais. Alors, bon, après, dans les autres cibles, comme tu me demandais les cibles, bon, je passe sur ton mauvais esprit une éponge magique, consensuelle. Ah non, merde, il fallait pas que je dise ça.
Zut. Ah, si on vote, on est deux, ça va être vite vu.
Non, non, si on vote, on
c'est
est trois.
C'est José qui va faire la balance.
Ah, mais José, il est toujours avec moi. Donc, il vote pas, zut. Bon, une de ces autres cibles, qui est aussi discutable, mais intéressante, c'est Hakim Bey. Et les zones d'autonomie provisoire.
Alors là, on est dans les années 90 pour le coup.
Et là, pour lui, alors il est très très dur avec.
L'ancêtre de la ZAD.
L'ancêtre de la ZAD. Et il est très très dur avec. Alors ici, je pense pas qu'il y ait eu des ZAD de tels qu'on nous on en a connu dans les années 90.
Ah, pour le coup, c'est une ZAD très spéculative hein, chez Hakim Bey.
C'est ce qu'il dit. Dans le et texte, lui, alors pour le coup, il s'en prend qu'au texte de Hakim Bey. Ouais. Donc. Ce qu'on disait, grosse influence,
de par le monde, je dirais, oui. Sur un modèle d'autonomie politique, hein, conçu comme une espèce de, à la fois d'imaginaire, de spéculation, d'une certaine manière, à la limite, la zone d'autonomie temporaire, on peut se la fabriquer soi-même, on n'a pas besoin d'être en contact avec qui que ce soit.
Et ce qu'on disait avec José, c'est que, quelles que soient les idées précises d'Hakim Bey, ça a donné lieu en pratique à des choses qui ne sont pas à rejeter,
pas nécessairement, la ZAD.
Pas nécessairement, la ZAD, on ne va pas rejeter ça d'un revers de main en disant non, c'est nul. Ils ont fait des trucs quand même, des trucs intéressants aussi, en termes de forme d'organisation de vie, vraiment, ils ont essayé. En tout cas. Et alors là, bon, lui, il s'en prend au texte d'Hakim Bey, et en particulier, ce qu'il reproche à Hakim Bey, c'est que, pour lui, pour Murray Bookchin, la promotion de la zone d'autonomie temporaire chez Hakim Bey s'accompagne d'un refus catégorique et explicite du désir révolutionnaire. Et donc, pour lui, c'est une capitulation, je pense. C'est-à-dire, il cite Bey, et effectivement, Bey, par exemple, va dire « Pourquoi se soucier d'affronter un pouvoir, entre guillemets, qui a perdu toute signification ?» et qui n'est plus que pure simulation, comme si le pouvoir était devenu virtuel. De tels affrontements ne produiront que d'horribles et dangereux spasmes de violence. Alors, là, on sent que Bookchin s'énerve. Pouvoir, entre guillemets, une pure simulation. Là, il cite un truc des années 70. Si en Bosnie, actuellement, le pouvoir des armes ne produit qu'une pure simulation, nous vivons sans doute dans un monde très sûr et très confortable. Le lecteur que préoccuperait l'augmentation continue des pathologies sociales propres à la vie moderne pourra se rassurer en méditant la sentence olympienne du Bey, pour qui, ouvrez les guillemets, le réalisme veut non seulement que nous cessions d'attendre la révolution, mais aussi que nous cessions de tendre vers elle, de la vouloir. Et donc pour Bey, Hakim Bey et ses acolytes... finalement, on renonçait.
Ils sont anti-révolutionnaires,
tout simplement, c'est ça. Et donc, un rêve démocratique, un rêve socialiste impossible, assène le Bey avec arrogance. Dans les rêves, nous ne sommes jamais gouvernés que par l'amour ou la sorcellerie. Donc là-dessus, et là, ici, encore le Bey, quant à un anarchisme tout empêtré dans la toile de l'humanisme éthique, de la libre pensée, de l'athéisme musculaire et de la grossière logique cartésienne fondamentalisme, il vaut mieux l'oublier. Et donc, le Bey ne se contente pas d'évacuer tout d'un coup toute la tradition des Lumières, Bookchin rappelle que la tradition des Lumières, c'est là d'où sortent l'anarchisme et le socialisme, quand même. Et donc, lui, il confond tout. Et se permet de globalement de proposer quelque chose qui est
Une sorte de révolution intérieure,
une sorte de révolution intérieure. Et donc coup, là,
elle est d'autant plus intérieure qu'elle change rien dehors.
C'est ça. En fait. Exactement.
Mais ça, c'est effectivement là pour le coup, pour les lecteurs de Hakim Bey sur les zones autonomes temporaires, la critique qu'elle porte. Hein. Après, il y a beaucoup de gens. Enfin, je sais pas, je réagis un petit peu, si tu veux, comme ça, à ce que tu dis en temps réel. Là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Sa critique, il ratisse très large. C'est-à-dire qu'entre les libertariens, Foucault, Akimbe... Après, on voit en même temps à quoi ça correspond. Hein.
Après, ils s'en prennent aux primitivistes.
C'est une espèce de vernis un peu radical, chic, dans le néolibéralisme ambiant. Quoi. Quelque chose comme ça.
C'est ça. Mais peut-être endroit. Aussi une certaine coupure, à mon avis, de l'anarchisme et de la classe ouvrière.
Ouais.
Malgré tout, même s'il n'est pas classiste, parce qu'il fait plutôt appel au peuple, à la majorité, et il ne se contente pas de la classe ouvrière.
Malgré tout,
c'est des classes populaires en tout cas. Il y a une coupure très claire. Je pense que malgré tout, ce n'est pas pour rien que pendant très longtemps, l'anarchisme a été le fait socialement de gens qui avaient plutôt des parcours qui n'étaient pas universitaires, qui n'étaient pas bourgeois. Et qu'est-ce qui. Tu penses à qui? Tu penses à Bakounine
je pense à beaucoup de gens. Je pense à Bakounine.
Les grandes têtes d'affiche.
Il y a un anarchisme ouvrier, c'est clair. Anarchisme populaire. Ouais. Mais t'as aussi un anarchisme. Enfin, pour le coup, l'anarchisme n'est pas identifié à une classe particulière.
C'est vrai.
Justement,
est-ce que peut-être qu'un des trucs qui pourrait viser, j'en sais rien. Là, c'est on pense un peu à voix haute, hein, mais sens où est-ce que justement l'anarchisme avait peut-être deux dimensions? À l'époque d'un Kropotkin ou d'un Bakounine, parce que Proudhon c'était aussi quelqu'un qui venait de pas grand chose.
Pas
d'extraction bourgeoise. Macnaud vient de paysans pauvres. Qu'est-ce qu'il doit d'autre
Non, mais le vrai truc, c'est effectivement l'inscription du mouvement anarch dans le mouvement ouvrier, en fait.
C'est ça.
Et effectivement, à partir des années 70, cela dit, avec le reflux du mouvement ouvrier, et t'as aussi ces mutations théoriques, je dirais, qui accompagnent ça, avec les Foucault, etc. Effectivement, il y a un virage qui, effectivement, sur une espèce d'insurrection ou de révolte intérieure, je dirais, et d'esthétisation de ça aussi. Effectivement, ça se marie très bien avec une société conformiste où finalement il n'y a plus d'engagement collectif particulier et plus d'utopie collective non plus. Après, si tu veux, c'est des gros morceaux tout ça.
Alors, un truc rigolo, c'est que dans ces cibles, il y a un journal qui est complètement inconnu qui s'appelle Fifth Estate d'été 1989 et. Ils ont fait un truc qui, à la fin de leur numéro, s'appelle The Appeal of Anarchy, l'appel de l'anarchie. Et justement, c'est une espèce d'appel. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec les appellistes? Est-ce que les appellistes auraient plagié The Fifth Estate? On peut se poser la question. Et justement, lui, alors, il en met plein la gueule parce qu'il dit, ces gens-là, justement, disent « Retranchez-vous de la société, faites la fête ». Sur un peu le mode de l'abbaye de Thélème de Rabelais. Et lui, il leur dit ce qu'ils oublient, c'est que l'abbaye de Thélème de Rabelais regorge de serviteurs, de cuisiniers, de palefreniers et d'artisans, sans le dur travail desquels les aristocrates insatiables de cette utopie pour riches ne seraient bientôt plus que des êtres affamés, nus et transis par le froid qui régnerait alors dans les couloirs de l'abbaye. Et donc, alors bien sûr, dans l'esprit des rédacteurs de l'appel du Fifth Estate, la nouvelle abbaye de Thélème a l'avantage d'une plus grande simplicité matérielle.
Mais ce qui vise, c'est plutôt les communautés hippies.
Oui, ces festins seront plutôt à base de tofu et de riz que de perdrix farcies ou de truffes savoureuses. Même ainsi, cependant, comment une société reposant sur cette forme d'anarchie peut-elle espérer abolir toute forme d'autorité, mettre tout en commun, et faire que tous puissent festoyer et courir nus, dansant et chantant toujours, sans avancée technologique majeure permettant de libérer les gens du travail?
Bon, il n'aime pas les hippies, quoi.
Ah, il n'aime pas les hippies. Non, mais bon, never trust a hippie, hein, c'est quand même un slogan punk qu'on a pu faire nous aussi. Hein, et il y a José qui me dit on coupe. On va faire une petite pause musicale là-dessus, et puis on vous retrouve pour la dernière partie.
Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui reprend pour sa troisième partie. Vous venez d'entendre un excellent morceau d'un groupe qui s'appelle Pavillon 7B. Et le morceau s'appelle Seul dans ma tête.
Est-ce que c'est un groupe ? Parce que si c'est un groupe, c'est un peu contradictoire.
Ouais. Est-ce qu'il est seul ? Est-ce qu'ils sont
l'association
plusieurs ?
Des individualistes ?
Est-ce qu'ils sont seuls à être plusieurs dans sa tête ? On a effectivement un sujet. Après, ça va être difficile d'y répondre. C'est un groupe qui a sévi à Dijon dans les années 80. Hein, voilà. Et comme toujours, on est en plein cœur du sujet avec les choix musicaux de José, puisqu'on vous parle ce soir de ce livre de Murray Bookchin qui s'appelle « Changer sa vie sans changer le monde » et qui porte finalement sur le débat qui oppose les anars individualistes aux anars construisant la révolution sociale et société sans État, en vrai quoi, hein, et pas simplement dans leur tête. Donc, et pas simplement seul dans leur tête. Donc,
contrairement à Akimbe.
Contrairement à Akimbe, dont on était en train de parler juste avant cette pause. Alors en fait, tu dis, voilà, c'est que ce livre, en fait, ce texte qui est de 95 au départ, prend finalement, ratisse très très large, hein, dans les cibles, c'est-à-dire que tous ceux qui contribuent à affadir, d'après Bookchin, et à rendre inefficace politiquement l'anarchisme, en faisant une espèce de mode de vie, une espèce de style de vie individuel, une espèce de révolution intérieure, ce qui est une manière de réactiver finalement, voilà, l'anarchisme, une tradition anarchiste, individualiste, avec laquelle Bookchin est en désaccord, puisqu'il pense qu'elle n'a jamais rien produit finalement politiquement, et qu'elle émerge régulièrement lorsqu'il y a des périodes de réaction, ce qui est le cas de la période des années 70-80 d'après lui, et qui au fond est tout à fait compatible avec l'individualisme néolibéral qui est imposé finalement à partir des années 70 et 80 dans les sociétés occidentales, et qui fait de l'anarchisme une espèce de posture, hein, radical chic, individuel, sans efficacité politique, hein, et même explicitement contre-révolutionnaire, comme c'est le cas par exemple chez Akimbe, et ce texte, voilà, c'est juste avant les années 2000, il me semble, je sais plus de quand ça date, la tasse, là, le ouais, fameux manifeste d'Akimbe, qui est explicitement, effectivement, anti-révolutionnaire. Il s'agit plus de prendre le pouvoir ou même de réfléchir à la manière d'organiser la société en limitant au maximum le pouvoir de l'État, mais il s'agit en fait de faire sa petite révolution perso, sa petite révolution intérieure, ou bien d'aller construire des communautés hippies pour aller faire la fête à la campagne, comme les appellistes dont il parle, les années 80, il était très, très anti-hippie, ce Murray Bookchin. Donc t'as mentionné effectivement tous ces cibles là chez lui, effectivement, et ce qui pointe, on en parlait là un peu pendant la pause entre nous, finalement il y a ce qui vise, c'est quoi, c'est une espèce d'anarchisme un peu petit bourgeois, finalement assez conformiste et inoffensif, qui est une cible assez courante, hein. On mentionnait le texte de Bégodeau,
votre bêtise,
voilà, histoire de ta bêtise,
voilà.
Il y avait texte chez Agone encore, le petit bourgeois gentilhomme, aussi, oui. Il y a quelques années, hein, du sociologue là,
Cardo.
On est un peu sur cette ligne de critique là.
Complètement, oui. Après, il y a aussi une critique du primitivisme qui est assez intéressante, de Zerzan, c'est ça le nom du gars, je crois.
Donc la technophobie, l'antiprogressisme et le retour finalement à une espèce de rapport immédiat et direct à la nature. Alors ça, c'est important parce que Bookchin est aussi un théoricien de l'écologie politique. Ça a été une des références des mouvements verts, hein, notamment des années 70, avant que les Verts participent au gouvernement.
Sachant que pour lui, l'écologie politique est forcément anticapitaliste parce que l'exploitation de l'homme par l'homme fonctionne avec l'exploitation de la nature. Par l'homme, et donc c'est indissociable, la destruction de la nature est indissociable du capitalisme. Là-dessus, il est.
Et donc, quand il règle ses comptes avec les primitivismes, mais c'est aussi régler ses comptes avec certains courants potentiellement réactionnaires dans l'écologie.
Aussi, oui, sans doute, parce que. Et inefficace, parce que finalement, ce que demandent certains primitivistes, c'est tout simplement d'abolir la révolution néolithique. Hein. Faites clair, c'est-à-dire que pour eux, tout ce qui relève de l'agriculture et de l'élevage, c'est mal.
Alors que nous, on sait ici que du point de vue de l'espèce.
Voilà. Non mais. Oh, bon. Celle-là, je l'entends longtemps, celle-là. Bon, c'est pas grave.
La dernière émission, vous pouvez l'écouter sur podcast, sur le site Gurdjieu. que du baroque.
Pour ceux qui ont raté la dernière émission, voilà.
Mais je disais juste que
les aboutissants de cette
juste que l'espèce survivra sans doute à la catastrophe produite par le capitalisme, et que j'y voyais purement un motif d'espoir. Alors. Mais comme vous, vous êtes individualiste et égoïste, évidemment, le point de vue de l'espèce, vous en fichez.
Parle-nous donc de ce livre-là.
Voilà. Donc, je vous déteste. Et donc,
il parle pas à vous, auditeur. Hein.
Je parle à Jean-Mathias et à José qui sont en train de se moquer de moi.
Bah, de faire du teasing pour la dernière émission.
C'est ça, voilà, ils font du teasing et ils se moquent de moi parce qu'eux, ils n'ont aucun espoir pour l'espèce. Et donc, bande d'antispécistes. Ah, ça y est, ah, je vous ai coincé. Et donc, là-dessus, sur les primitivistes, alors un truc intéressant, je trouve, c'est qu'il fait un rapprochement avec Heidegger.
Et le philosophe nazi,
enfin le nazi plutôt, et allons plus loin. D'ailleurs, il y a une pétition pour le virer des programmes de terminal sur change.org. Je l'ai balancé. Elle est envoyée par un type que j'aime pas, mais moi je suis pour virer Heidegger des programmes de terminal, donc peu importe. J'y pense là. Elle a été signée que par 500 et quelques personnes, ce serait bien qu'il y en ait plus. Donc virons les nazis du programme scolaire français. Des nazitions. Et ce qu'il remarque, c'est que finalement la critique de la technique peut servir de paravent pour faire oublier des choses plus importantes. Et une de ses idées, c'est que ces espèces de critiques complètement verbales de la technologie, chez les primitivistes, fait aussi qu'on arrête de critiquer le capitalisme. C'est-à-dire que finalement, il y a une espèce une espèce de mot écran. C'est la technique qu'on critique et pas le capitalisme. Et ça, je trouve que c'est une critique assez juste, en fait. Pour lui, on perd de vue l'essentiel et on commence à critiquer des trucs, comme ça. En oubliant que c'est pas les machines qui font du mal aux hommes et aux femmes de ce monde, c'est le capitalisme qui utilise les machines pour exploiter les gens. Donc, peut-être qu'il y a une certaine vision de la technique neutre chez lui. Qui est peut-être critiquable, parce qu'on peut penser que la technique telle que nous on la connaît aujourd'hui est aussi produite, pareil pour le capitalisme, c'est-à-dire qu'elle n'est pas neutre. Et lui, il garde l'espoir, un espoir très très finalement, très très proche des Lumières, que la technique pourrait être mise au service de l'humanité plutôt que de servir à asservir l'humanité. Donc.
C'est pour ça qu'il va. Les primitivistes que tu cites là, les références, les ciblées, il est. Il y a des références précises.
C'est Bradford, que je connais pas bien, que je connais pas du tout d'ailleurs même. C'est des gens aussi, alors le grand primitiviste très connu, je crois que c'est Zerzan. Et lui, il va dire qu'il ne faut pas oublier que dans les sociétés dites primitives, il y avait aussi énormément d'oppression. C'est-à-dire que finalement, on pourrait revenir à des choses du type la critique de Rousseau, au sens où c'était pas mieux avant. Alors il est 20h29, on va
conclure là-dessus, mais en tout cas c'est une lecture que tu conseilles.
Oui.
Et c'est un auteur, on peut le dire, effectivement c'est un peu le jeu de l'émission aussi d'être critico-critique, hein. Mais c'est vrai que Murray Bookchin est un des théoriciens les plus importants de l'anarchisme dans la deuxième moitié du XXe siècle, ça, on peut dire ça. C'est quelqu'un.
C'est-à-dire que quand il dit que les principes de base de la gauche, et par gauche il entend une gauche révolutionnaire, c'est l'internationalisme, la démocratie, l'antimilitarisme qui distingue du pacifisme, parce que pour lui il faut qu'on ait des armes pour se défendre contre les riches. La révolution, la laïcité, le rationalisme, alors faudrait voir quelle application il fait de tous ces principes, parce qu'on peut aussi les utiliser comme de façon assez pourrie, ces principes. Mais malgré tout, ça me semble un peu inévitable.
En tout cas, c'est une lecture qu'on recommande vivement.
Et c'est une lecture qu'on recommande vivement.
Et en particulier sur ce texte-là, qui vient de sortir aux éditions
Changer
Agone.
Sa vie, sans changer le monde. L'anarchisme contemporain entre émancipation individuelle et révolution sociale, donc Chagone, Contrefeu, ça vient de sortir. Il y a une bonne postface de Xavier Crépin qui est assez instructive, je trouve, où il met en perspective un petit peu le texte de Bookchin par rapport à sa production antérieure. Voilà, donc c'est bon, lisez-en. Même si vous n'êtes pas d'accord, ça peut faire gamberger.
Et pour ceux qui ont raté le début de l'émission, comme toutes nos émissions, elle est écoutable sur le site jeudinoirgurdulu.org. On vous dit, on vous donne rendez-vous dans 15 jours.
West Kent to West Coast, LA. Yeah, with the upbeats bumping every day. Listen, yeah. All I need is one microphone and one mic stand. These alone.
It's through this media, must be my mind. No, I'm taking every day as blessed and every day as dope. Whether I'm waking up smiling or I'm tired to the bone, I have to keep it moving. I have to keep my shit correct. Remember all the things you said I wouldn't get? Got it, yeah? Sing it.